Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins, présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. J'ai demandé aujourd'hui pour cette nouvelle émission à Chantal Tanet de venir nous parler de l'histoire des noms de lieux en Périgord. Mais donc je vais d'abord vous remercier Chantal d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter et de présenter également votre spécialité.
Eh bien, je dirais que j'ai mené une double vie, si je puis dire. D'abord, une vie d'enseignante dans le secondaire, j'étais professeure de français. Et puis, de là, je suis passée dans un tout autre domaine par amour de la langue et des langues. Et je suis devenue lexicographe, c'est-à-dire un mot un petit peu barbare, pour dire auteur de dictionnaire. Voilà, et j'ai travaillé assez longtemps, notamment au dictionnaire Le Robert. Et là, j'ai eu à me spécialiser dans l'étymologie de la langue, c'est-à-dire l'origine des mots, l'histoire des mots. Et des mots de la langue courante, bien entendu, et de là, ça amène forcément à s'intéresser à l'origine des noms propres, des noms de personnes, des prénoms et des noms de lieux.
Donc l'origine des noms de lieux, c'est une science qui s'appelle la toponymie.
La toponymie, encore un mot un petit peu savant, oui, c'est-à-dire la toponymie, c'est l'ensemble des noms de lieux d'une région et l'étude de ces noms-là, de leur origine, de leur histoire. Et ça englobe d'un côté ce qu'on appelle à proprement parler les noms de lieux, c'est-à-dire de villes et de villages, ce qui recouvre à peu près les noms des communes, et par ailleurs les noms des lieux dits, c'est-à-dire des petites agglomérations de 2, 3, 4 habitations, parfois il n'y en a qu'une d'ailleurs, voilà.
Sur ce plan-là, notre département est riche en lieux historiques, en lieux dits également, vu l'éparpillement un peu de la population dans nos campagnes.
Oui, effectivement, étant donné le caractère très rural et très naturel de la région qui subsiste encore, hein, à vrai dire. Et donc il y a bien sûr des milliers, des dizaines de milliers de lieux dits, beaucoup plus que des noms de lieux. Et c'est toute la difficulté quand on s'occupe de toponymie, de les répertorier, et d'une part, et puis de les analyser, parce que pour s'occuper de tous les noms de lieux dits, il faudrait une grande vie entière à peu près.
Et donc la toponymie se rapproche de l'histoire ?
Oui, tout à fait, puisque s'occuper de s'intéresser à la toponymie, c'est forcément s'intéresser et s'occuper des couches les plus profondes de notre histoire, les plus anciennes. C'est l'histoire d'un nom de lieu, l'histoire de la langue, c'est notre histoire, c'est l'histoire de toutes les populations qui ont occupé un territoire pendant des siècles et des millénaires.
Donc on pourrait dire qu'en regardant les noms de lieux d'une région, on peut en quelque sorte en reconstituer l'histoire, ou du moins en retrouver des traces de chacune des périodes de l'histoire.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment passionnant d'ailleurs, puisqu'on peut remonter jusqu'à, pour la couche la plus ancienne, une période qui est à peu près celle du au moins du néolithique, si ce n'est auparavant, avec la couche qu'on appelle pré-celtique, c'est-à-dire avant les Celtes, avant les Gaulois. Et il y a là un ensemble très intéressant parce que, bon, ça nous fait remonter très très loin dans le temps et toucher de près à nos ancêtres par les noms de lieux. Et en même temps, on ne sait pas vraiment grand-chose de cette langue ou de ces langues. On a pu en reconstituer des petites séquences. Ce ne sont pas des mots entiers, une grammaire entière, etc. Bien entendu, c'est trop loin. Mais des petites séquences que l'on retrouve dans un certain nombre de noms de lieux qui ont surtout un rapport avec la géographie ou la topographie. Et il y a en particulier des noms de rivières qui sont formés à partir de ces petites séquences pré-celtiques, ou des noms de hauteur, de caractéristiques du terrain. Alors pour les rivières, il y a deux exemples bien connus, celui de la Vézère, qui est formé d'une de ces séquences, vis, ves, pré-celtique, à rapprocher de vézone, à Périgueux, c'est la même chose. C'est des mots qui signifiaient tout simplement l'eau qui coule, la rivière, ça n'est pas plus loin que ça. Il y a aussi la Dordogne, c'est une eau de base, d'or, d'our, qui avait le même sens, avec un suffixe, et que l'on retrouve évidemment dans d'autres régions que la Dordogne. Par exemple, la Durance, plus bas en France, c'est exactement la même origine. Mais on a en Dordogne des diminutifs de noms de rivières. Par exemple, je pense à une rivière qui est dans la vallée de la Gironde, en Périgord noir, et qui s'appelle le Turançon. Mais le Turançon, c'est comme la Durance avec un diminutif. Donc cette toute petite rivière, elle a une origine très 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 ancienne au point de vue linguistique, hein, je m'entends. Voilà, et il y a par ailleurs des mots comme qui, de cette même origine pré-celtique, qui désignaient des hauteurs. Hein, on désignait l'eau, ce qui est haut, ce qui est bas, ce qui est sec, ce qui est humide. Bon, les hauteurs, par exemple, une base Cuc, qui a donné Cumont, dans Saint-Antoine-Cumont. Ou ailleurs, un petit peu en dehors du département, il y a Mont-Cuc. C'est peut-être des mots qui font un petit peu rigoler, mais c'est très très ancien et très intéressant d'un point de vue linguistique. Il y a encore des bases car, à peu près, ça peut être quelque chose comme ça, qui désignait un sol pierreux, qu'on retrouve dans des noms de lieux-dits très fréquents, comme Jarige, Jarry, Jarigue, voilà.
Garrigue, peut-être.
Garrigue, voilà. Et on le retrouve aussi dans le mot qui est en français courant, bien entendu. Voilà.
Voilà, donc dès avant les Gaulois, il y avait des noms qui étaient donnés et qui sont restés pour certains lieux, certaines rivières et...
Tout à fait, tout à fait. Et ils sont répandus un petit peu partout sur notre territoire. Et dans des départements comme le Périgord, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez vivant encore, parce que c'est un département qui est marqué par la présence de l'eau, beaucoup d'eau, de rivières, des falaises, des hauteurs, des sols qui ont une caractéristique. Et donc, on retrouve les traces de cette couche-là, de même qu'on va retrouver un petit peu après les traces de langues un petit peu plus récentes.
Voilà, donc les langues pré-gauloises. Et ensuite, à l'époque gallo-romaine, qu'est-ce qui va émerger ?
Alors, il y aura d'abord les traces de la présence gauloise, donc, puisque c'est vrai que cette période gallo-romaine a été marquée par un mixage de ces deux cultures, gauloise et romaine. Mais les Gaulois nous ont laissé pas mal de choses. D'abord, ce qui est évidemment très important, c'est le nom du Périgord et de Périgueux, puisque c'est un peuple celtique, les Pétrocors, qui ont fondé la cité de Périgueux. Donc ces deux mots sont totalement d'origine celtique. Et puis on trouve les traces de leur langue dans également des noms qui ont un rapport avec la présence de l'eau. un petit peu comme pour la couche préceltique. Hein. Par exemple, des noms de rivières, il y en a une qui est intéressante, c'est la Boronne. Ça vient d'un nom mot gaulois, Biber, qui était le nom du castor. Donc c'était la rivière, une rivière certainement très propice à la vie des castors.
Beaver.
Oui,
beaver
exactement. C'est ce qui a donné l'anglais beaver, évidemment. Et là, on a ce cas-là de la Bourronne. On a aussi, on a deux condats, un condat sur Vézère et condat sur Trincou. Voilà. Et ça vient du nom d'un mot gaulois qui désignait un confluent. Condat-sur-Vézère est à la confluence du Colli et de la Vézère. Voilà. Et on a aussi des mots qu'on trouve à plusieurs occurrences, comme Chambon, soit dans des lieux-dits souvent. Alors le Chambon, ça vient d'un mot gaulois qui désignait une courbe, en général de rivière, que formait la rivière. Voilà, c'est assez caractéristique des traces gauloises. Mais il y a aussi des traces dans des lieux-dits qui désignaient en fait des terrains, par exemple, désertiques, comme la lande, les landes, ou des terrains humides. On a les lieux-dits la Sagne, la Nauve, ou encore des terrains défrichés, des terres défrichées. Donc à une époque très très ancienne, hein, toujours gauloise, tous ces mots-là viennent du vocabulaire celtique. Défrichés, on a bouzik, bouige, des mots comme ça. Et puis on a un certain nombre de noms de végétaux, d'arbres, qui nous viennent du gaulois. Il y a le nom de l'aulne, qui était à peu près Verne, et qui a donné les lieux-dits Vergne, la Vergne, les Vergnes. Le nom de l'orme, c'était quelque chose qui a donné Holm, et qu'on retrouve avec une déformation, par exemple, dans Saint-Laurent des Hommes, qu'on a compris comme on a tiré le Holm vers Homme.
L'Holm aussi, peut-être près de la Bastide de Montpazier.
Tout à fait, tout à fait. C'était le nom de l'Orme. Et puis, il y a aussi un terme celtique qu'on retrouve d'un côté dans Barade, la forêt Barade, et dans les noms de rues dans les villages, la rue du Barry. Hein, c'est assez fréquent dans tout le sud de la France.
Du Baradis aussi, par exemple.
Baradis, voilà. Et ça vient d'une petite séquence qui désignait alors soit une hauteur, comme dans le cas de Barade, mais une hauteur qui ferme. C'est quelque chose qui ferme. Donc la forêt Barade, c'était bien le cas. Ça délimitait un territoire. Et le Barry, dans le cas du Barry, les rues du Barry, le quartier du Barry, c'était ce qui était juste au-delà des remparts d'un village. Voilà quelques exemples de les traces gauloises.
Et en visitant ces noms de lieux, on a l'impression de continuer à visiter notre campagne périgourdine, qui n'était sans doute pas très différente de ce qu'elle est encore maintenant, sauf les ormes qui ont disparu.
Voilà, mais absolument. C'est aussi s'intéresser à la toponymie, c'est une manière de reconstituer aussi un patrimoine qui peut avoir en partie disparu, même si ce n'est pas trop le cas dans notre région, mais quand même. Hein, les ormes, les aulnes, bon, ouais, voilà. Oui. Et les baradis, bon, souvent il y a plus de remparts dans les petites villes et
les baradis perdus.
Voilà, les baradis perdus, exactement.
Thank you.
Nous retrouvons donc nos noms de lieux du Périgord et nous allons donc évoquer d'autres influences, d'autres origines. Par exemple,
alors, on va peut-être parler des nombreux noms en hack dans le département qui interrogent souvent les touristes. Ces noms en hack, on trouve les mêmes formes avec une finale en AT dans la France du Sud. Et dans la France du Nord, les mêmes formes avec des finales en AY ou EY ou E. Alors tout ça vient d'un suffixe à l'origine gaulois, c'était acos, qui a été récupéré et très utilisé par les Romains sous la forme acum, et qui suivait un nom de personne. Et avec le sens général de c'est le domaine, la propriété de monsieur un tel. Et donc c'est un type de formation qui a été très très répandu à l'époque gallo-romaine, parce que l'administration romaine a imposé le relevé, l'inscription sur les cadastres de toutes ces nouvelles petites propriétés de colons. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a pu en conserver aussi la trace. Et ces formations étaient composées d'un nom de personne qui a pu être gaulois, latin ou gaulois latinisé, puisque les Romains ont évidemment latinisé énormément de noms de lieux et noms de personnes. C'est aussi leur marque de fabrique, hein, bien entendu.
Donc Bergerac, Ribérac, ce sont des noms qui trouvent ce type d'origine.
Voilà, alors bon, Ribérac est à une origine qui peut être discutée, mais Bergerac aussi d'ailleurs, parce que il y a plusieurs attestations anciennes de ce type de nom de lieu, donc il peut y avoir des théories différentes, mais globalement, il y a très très peu de noms en hack qui ne soient pas formés à partir d'un nom de personne. Et donc, ils entrent à peu près tous dans la même catégorie. Voilà.
Alors, on peut parler aussi de quelque chose qui est peut-être moins connu, qui est l'époque des Visigoths et le passage, l'ère Visigothe en Aquitaine et en Dordogne.
Voilà, effectivement, puisque les... migrants germaniques qui sont arrivés dans l'ancienne Gaule à partir du IIIe siècle ont occupé un peu la totalité du territoire de l'ancienne Gaule. La plupart se sont plutôt installés dans la partie nord ou dans le sud-est. Les Francs, évidemment, ont fini par occuper, élargir leur territoire et ont laissé énormément de traces dans notre langue, même à commencer par notre langue et dans énormément de noms de personnes. Mais en Aquitaine, ce qui est intéressant, et en Périgord, c'est des traces de la présence du groupe des Visigoths. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en fait établi un royaume Visigoth dans la région de Toulouse au IVe siècle. D'ailleurs, la Chape a consacré un petit colloque au début du mois de janvier sur ce sujet. Et donc, bien entendu, ils ont laissé des traces avec leur nom et leur occupation, des traces dans les noms de lieux. Alors, il y a des traces de... On a un cas très intéressant avec un nom carrément ethnique, celui de Gou. Gou-Rossignol, dans le nord-ouest du département, qui vient directement du nom des Goths, les Visigoths étant un des ensembles de Goths, les Visigoths et les Ostrogoths. On a aussi un autre cas très intéressant qui est celui d'un nom de femme, qui est quand même assez rare, qui est des traces de nom de femme dans la toponymie en général. C'était un nom qui était à peu près Brunhilde et qui a donné dans notre département le nom de lieu Bourg-Nickel et Bourg-Nickel, il y a un ou deux lieux dits aussi. Et c'était la fille d'un roi wisigoth. Et puis on a enfin des noms très particuliers, même dans leur consonance, il y en a quelques-uns, qui sont formés à partir d'un nom de personne germanique et suivis d'un suffixe, ingen, que l'on retrouve dans une quantité d'autres régions de France et de Navarre, mais qui, dans le domaine qui a été occupé par les Wisigoths, a évolué vers à peu près Inx, quelque chose comme Inx, Ins, et on a en Dordogne les cas de Mosins, Mousins, Vanxin et Festalan. Il y en a deux qui sont assez proches dans le nord-ouest du département, Festalan et Vanxin, hein, et deux autres qui sont relativement proche de part et d'autre, pas très éloigné de la rivière Dordogne, c'est Mosins et Mousins. Voilà. Il y a d'ailleurs une certaine concentration de noms d'origine wisigothique dans la moitié sud du département, à proximité relative de la Dordogne. Voilà, et il y a aussi des traces de noms de noms de lieux qui viennent directement de noms de personnes tout seuls. Alors, ils ont des consonances assez particulières et on peut se faire l'oreille et les repérer. Par exemple, Audrix, Bertric, Buré. Ils commencent souvent par un B. Bliss et Born, la commune. Les deux mots sont d'origine germanique. Et puis, il y a des noms en Hac aussi. On leur a collé un ce Hacum, là. Agonac, Bénac, Tonac. Voilà, et il y en a d'autres.
Voilà, donc les origines se retrouvent et se combinent pour donner des noms un peu plus évolués au fil du temps.
Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ils évoluent, ils peuvent garder une trace presque brute des noms de personnes germaniques d'origine ou avoir été transformé un petit peu, soit latinisé, soit on leur a ajouté un suffixe typiquement germanique comme ce ingen ou un suffixe gallo-roman comme acum. Voilà. C'est très vivant la langue commune et la langue des noms de lieux, c'est la même chose, ça bouge.
Et quelles seraient les origines les plus récentes alors des noms de lieux dans notre région?
Alors ce serait, disons, les noms de lieux qui ont été formés à la période dialectale, c'est-à-dire après le Xe siècle, bon, disons, dans la période du Moyen-Âge, même avancé, c'est une période où on était sorti de la langue romane, hein, qui a été utilisée à peu près au Xe siècle, et ensuite se forment les dialectes, dont le dialecte occitan, et là, il y a énormément, surtout, de lieux dits. Qui sont formés à partir de la langue d'oc. Hein. Par exemple, il y en a un qui a des quantités de formes, de variantes. C'est la faille, la phage, et puis les diminutifs fagette, fajole, fayole, etc. Et tout ça, ça vient de l'occitan faïa, qui lui-même venait du latin fagus, qui était le nom du être. Beaucoup de noms de végétaux, de plantes, etc. Alors, il est bien entendu que l'occitan n'est pas une langue primitive. Hein, il vient toujours de plus loin, très souvent du latin, parfois du gaulois, etc. Mais ce sont des formes très particulières, les formes phage, faille, etc. sont francisées et on ne retrouve pas ça dans la langue française courante. Un autre cas qui est peut-être encore plus clair, c'est le mot latin podium, désigner une hauteur, a été très utilisé, on le retrouve beaucoup en toponymie. En français, il a évolué par évolution phonétique vers le mot puits, P-U-Y, comme dans puits de dôme. Et dans le dialecte occitan, il a évolué vers poche, couche, pec, pouge, etc. Il y a des quantités de formes avec des quantités de lieux-dits ou de noms de lieux hein, en composition avec ce mot-là. Voilà, ça, ce sont des caractéristiques de la période dialectale. Et il y en a une autre, une dernière assez importante que tout le monde connaît dans les lieux-dits, lieux-dits qui se terminent en IE, du type la Renaudie, la Guillonie, voilà, exactement, Rigaudie, Ménardie, etc. Et ça, ça a été construit à une époque, des grands défrichements au Moyen-Âge. Il y avait toutes petites propriétés ou des petits domaines qui se recréaient à partir du nom du propriétaire, de la personne. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'un grand nombre de ces noms de lieux-dits en IE sont formés à partir d'un nom de personne d'origine germanique. Mmh. Puisque Rigaud, Guy, Ménard, etc., c'est à 100% germanique. Arnaud, etc., voilà. Donc, vous voyez, cette récupération des couches linguistiques anciennes jusqu'à une période, pas très, très récente, mais... Voilà.
On évoquait le Moyen-Âge tout à l'heure. Le Moyen-Âge en Dordogne a été quand même très marqué par la fameuse guerre de Cent Ans. Entre le parti français et le parti anglais. Est-ce qu'il nous reste quelques mots de cette époque-là, quelques noms de lieux de cette époque-là
De cette époque-là, disons de formation anglaise, je voulais dire.
Par exemple.
Voilà. Alors, à ma connaissance, non. Pour une raison assez simple, c'est que, disons, vous savez... L'aristocratie anglaise, les classes dirigeantes anglaises ont très longtemps parlé le français, enfin bon, l'ancien français de l'époque. Donc c'est plutôt eux qui ont récupéré énormément de termes de notre vocabulaire que l'inverse. Sinon, non. Les traces de ce côté-là, ce serait plutôt, elles remonteraient à un stade germanique, puisqu'il y a énormément de mots d'origine germanique, de mots de base, de suffixes que l'on retrouve dans toute la France, en Angleterre, en Allemagne, etc. Voilà.
Bien. Eh bien, Chantal, le temps qui nous était imparti s'est écoulé. Je vous remercie beaucoup et j'espère que les auditeurs apprécieront ce voyage que nous avons fait à travers les lieux et les lieux-dits du Périgord.
Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous.